Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à une nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire diffusée sur les ondes de CHIZ 94.3. Au micro ce soir, vous êtes avec Myriam Lévesque et Thomas Nadeau-Mercier, un nouveau membre qui s'ajoute à notre équipe. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Myriam.
Pour l'émission de ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Denise Baillargeon qui nous parlera de son tout dernier livre sur l'histoire du suffrage féminin au Québec qui a été publié cette année aux éditions du Remue-Ménage. Madame Baillargeon est professeure émérite du département d'histoire de l'Université de Montréal et est spécialiste, entre autres, de l'histoire des femmes, de la santé et de la consommation. Elle a publié une synthèse de l'histoire des femmes au Québec en 2012 aux éditions Boréal et revient en force avec une fascinante synthèse qui revisite la place des femmes dans la sphère politique au Québec de l'acte constitutionnel de 1791 à aujourd'hui et la lutte des associations féministes pour l'obtention du droit de vote. Bonsoir, Mme Baillargeon. Bienvenue à l'émission.
Bonsoir.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, question peut-être de vous connaître un peu plus votre parcours par rapport à ce livre-là. Qu'est-ce qui vous a poussé, en fait, à faire cette synthèse sur l'histoire?
Alors, en toute honnêteté, je dois dire que c'est pas mon idée, mais c'est l'idée d'une historienne canadienne anglaise qui s'appelle Veronica Strongbogue. Et Veronica a eu le projet de réunir une équipe d'historiennes à l'échelle du Canada pour écrire de courtes histoires du suffrage féminin au niveau fédéral, dans chacune des provinces ou régions canadiennes, et aussi un ouvrage sur les luttes politiques des femmes autochtones. Donc, elle m'a demandé si j'étais prête à écrire la synthèse pour ce qui concerne le Québec. Et j'ai dit oui. Voilà.
Ah, mais c'est très intéressant.
Oui. Alors, les livres de la collection ont commencé à apparaître en anglais chez UBC, University of British Columbia Press. Il y a celui de John Sangster qui porte sur l'ensemble du Canada, celui de Tara Brookfield qui porte sur l'Ontario et le mien. Donc, ça veut dire que mon livre est paru simultanément en anglais aux presses de la Colombie-Britannique et en français chez Remue-Ménage.
Ah, mais c'est vraiment intéressant. Oui, il me semble que je l'ai vu. En plus, c'est récent quand même, la traduction, il me semble.
Oui, en fait, mes deux ouvrages sont sortis en mars 2019. Mm-hmm. Celui de John Sangster, qui est le premier de la collection, est paru il y a un an plus tôt, donc en mars 2018. Et je pense que le prochain, qui est celui de Sarah Carter sur les prairies, va paraître en mars 2020. Donc voilà, donc les livres vont continuer à apparaître comme ça dans les prochaines années. Et je pense qu'à terme, les presses de Colombie-Britannique ont le projet de réunir les 7 ouvrages de la collection sous forme de petits coffrets.
Oh, wow!
Oui, voilà. Mm-hmm. Alors, c'est un projet grand public. Mm-hmm. Hein. Ce qu'on vise, c'est finalement à faire connaître l'histoire du suffrage féminin au grand public, qui peut être autant les étudiants au bac ou à la maîtrise ou même au doctorat, mm-hmm. que éventuellement peut-être des journalistes qui sont intéressés par la question ou qui ont besoin d'informations sur la question. Puis aussi, bon, voilà, tout le monde qui s'intéresse un peu à l'histoire et à l'histoire des luttes féminines en particulier.
Mm-hmm. Et bien avant d'entrer dans le vif du sujet, en fait, on va commencer par une première pièce musicale. On va écouter une chanson qui introduit bien le mouvement féministe et ses luttes peut-être à travers les années. Une chanson qui reprend un slogan qui a été utilisé par les mouvements ouvriers aux États-Unis en 1911, mais qui a aussi été repris en 1995 pour la marche des femmes du Québec contre la pauvreté. Vous l'avez peut-être deviné, nous allons écouter la chanson « Du pain et des roses » qui a été interprétée par Marie-Claire Séguin. Bonne écoute!
Thank you.
Retour à l'émission 3600 secondes d'histoire pour une émission ce soir sur le suffrage des femmes au Québec, en compagnie de notre invitée Denise Baillargeon, qui a tout récemment publié une synthèse sur la question. Donc, tout d'abord, en fait, vous commencez l'ouvrage avec l'acte constitutionnel de 1791 qui octroyait en fait aux femmes le droit de vote. Donc, ça n'a pas toujours été un droit qui était interdit aux femmes. Les femmes ont déjà pu avoir le droit de vote.
En fait, je dirais pas que l'acte constitutionnel donnait le droit de vote aux femmes. L'acte constitutionnel accordait le droit de vote aux personnes qui étaient propriétaires. Et c'est le mot « personne » qui était utilisé dans la loi, qui est une loi britannique. Et évidemment, les femmes se sont dit qu'elles étaient des personnes. Donc, celles qui correspondaient aux autres critères de la loi, il fallait avoir 21 ans, être sujet britannique, mais aussi posséder des biens d'une certaine valeur. Alors, les femmes qui étaient propriétaires de biens de la valeur requise ont voté. Certaines d'entre elles ont voté. Et ce qui est intéressant dans cette histoire de l'acte constitutionnel, c'est qu'en fait, les Britanniques avait pas considéré le droit civil qui s'appliquait au Québec, qui était la coutume de Paris à l'époque. Et la coutume de Paris traite les femmes différemment du droit civil britannique. En fait, en Grande-Bretagne et dans les autres colonies britanniques, les femmes n'étaient généralement pas propriétaires. Donc, la question se posait pas du vote des femmes. Et c'est pour ça que la loi pouvait se permettre d'utiliser le mot « personne ». Mais au Québec, à cause de la coutume, il y a des femmes qui étaient propriétaires, même des femmes mariées, parce qu'on pouvait, entre autres, se marier en séparation de biens. Alors, je pense que les Britanniques ont été un peu étonnés de constater que, dans le Bas-Canada, il y a des femmes qui pouvaient voter. Et, bon, il y en a à peu près un millier, selon selon les recherches dont on dispose, il y en aurait à peu près 1 000 000 qui auraient voulu voter et un peu moins de 800, je pense, qui ont effectivement voté. Parce que le système électoral à cette époque-là était très différent. On votait à main levée, on votait à haute voix, dans un bureau où il y avait des scrutateurs et il y avait les autres votants, les autres électeurs qui attendaient leur tour, finalement. Alors, les femmes se présentaient comme les hommes, comme les autres personnes qui voulaient voter, et elles devaient jurer, elles devaient dire qu'elles étaient propriétaires, et les scrutateurs décidaient si oui ou non cette personne-là avait l'air d'être vraiment propriétaire ou pas. Alors, bien sûr, il y a des gens qui étaient connus, on savait qu'ils étaient propriétaires, mais dans d'autres cas, on pouvait demander aux gens de prouver qu'elles étaient propriétaires. Et puis, parfois, les scrutateurs disaient non, moi, je pense pas que cette personne-là est qualifiée pour voter. Et si les deux scrutateurs étaient du même avis, eh bien, la personne ne pouvait pas voter. Alors, c'est ce qui explique qu'un nombre de femmes plus élevé qui se sont présentées au bureau de scrutin pour voter que le nombre de celles qui ont effectivement voté. Certaines étaient récusées, finalement. On leur refusait le droit.
Donc, on comprend, Mme Baillargeon, qu'il y avait bel et bien une faille dans le système qui permettait, à partir de l'acte constitutionnel de 91, que les femmes votent. Mais alors, on peut se demander, donc, à partir de quel moment on commence à s'opposer au suffrage des femmes, là?
Alors, on commence à s'y opposer, semble-t-il, dans les années 1820. Les années 20, c'est une époque où il y a des tensions dans le Bas-Canada qui sont en augmentation, si on veut, entre les francophones et les anglophones. Et ça suscite un climat politique de suspicion, si je dirais, ça devient de plus en plus difficile finalement. Et puis en plus, à partir du début du 19e siècle, mais ça s'intensifie à mesure que le temps avance, de plus en plus on considère que les femmes ne devraient pas voter, que ce n'est pas la place des femmes d'aller voter, parce que les femmes, surtout les femmes qu'on qualifierait de respectables, les vraies femmes, elles devraient finalement se consacrer aux soins des enfants, aux soins du foyer. Leur vraie place, entre guillemets, c'est à la maison et c'est aux hommes, finalement, de s'occuper des affaires politiques, des affaires d'État. Donc, il y a cette idéologie qui s'implante tranquillement, qui se diffuse, une idéologie qu'on va appeler des sphères séparées. C'est cette idée que les hommes et les femmes habitent, en quelque sorte, dans des sphères différentes, la famille d'un côté, la politique, la sphère publique de l'autre. Et cette idée-là, elle est déjà là à la fin du 18e siècle. Elle est comme un peu amenée par les révolutions françaises et américaines. Ce sont des idées, donc, qui sont issues de ces révolutions-là. Et ça se répand. Et ça se répand tranquillement dans le Bas-Canada. Et dans les années 1820, on commence à en voir des effets concrets par cette opposition au vote des femmes. Il y a même des gens, des hommes, qui vont signer des pétitions, qui vont envoyer des pétitions à la Chambre d'Assemblée de l'époque pour dénoncer une élection parce que les femmes ont voté. Et par contre, on a aussi des pétitions signées par des hommes disent qu'une élection n'est pas valide parce qu'on a empêché des femmes de voter. Donc, dans les années 1820, on voit là les deux tendances qui s'affirment, les deux tendances qui s'affrontent finalement. Et puis, voilà.
Est-ce que ça pouvait être lié peut-être pour qui les femmes votaient, en fait?
Certains historiens ont cru ça, oui, mais en même temps, ce qu'on se rend compte, c'est que, oui, c'est sûr que dans le contexte là, nationaliste, là, où on a déjà des tensions entre les francophones et les anglophones, on pourrait penser qu'il y avait plus de femmes qui votaient, plus de femmes anglophones qui votaient que de femmes francophones. En fait, il y avait proportionnellement à leur nombre, c'est vrai, il y avait plus de femmes anglophones qui votaient, mais si on prend l'ensemble des électrices, on constate que 60% d'entre elles sont des francophones. Donc, il y a plus de femmes francophones qui votent que de femmes anglophones.
Puis il y a le parti patriote aussi qui était contre le droit de vote en fait aux femmes. Est-ce qu'il reprenait un peu ces mêmes arguments-là?
Oui, tout à fait. Il y a une déclaration assez célèbre là, de Papineau à l'Assemblée du Bas-Canada en 1834 qui va dire que le vote des femmes va à l'encontre de la décence, de la modestie du sexe, dit-il, dans ses termes du 19e siècle. Et en fait, par là, on voit que Papineau est fortement influencé par les idées des philosophes français, notamment Jean-Jacques Rousseau, des philosophes qui prétendent qu'une femme respectable, finalement, une femme justement modeste, décente, vertueuse, qu'une femme comme ça, elle, par nature, finalement, elle veut rester chez elle. Elle ne veut pas s'exposer publiquement, parce que s'exposer publiquement, c'est risquer, au fond, d'échoir, d'être corrompu soi-même. Donc, il faut garder les femmes à l'intérieur du foyer pour préserver leurs vertus et pour qu'elles éduquent les enfants dans un climat sain, disons, à l'abri des influences néfastes de la société. C'est un peu toutes ces idées-là qui sont en train vraiment de s'affirmer. Et les patriotes vont reprendre ces idées-là. Les patriotes, ce sont des révolutionnaires, hein, au même titre que les révolutionnaires français, américains. Donc, ils sont influencés par un même ensemble d'idées.
Mm-hmm. Ça, c'est quand même assez. J'ai trouvé ça assez fascinant quand même de constater que les patriotes, justement, étaient contre le suffrage féminin, parce qu'on regarde, par exemple, bon, les idées assez progressistes qu'ils avaient. Si on regarde, par exemple, la déclaration d'indépendance de Robert Nelson, bon, on stipule quand même que tous les individus seront placés sur un même pied d'égalité, finalement, particulièrement là, les peuples autochtones, finalement. Mais là, on comprend finalement que les femmes sont à part, finalement, ces considérations-là.
Oui, les femmes. En fait, il faut aussi voir que dans l'esprit des patriotes, comme dans l'esprit républicain, je dirais d'une façon générale, le fait que l'on dise que les femmes doivent se consacrer aux soins du ménage et surtout des enfants, ce n'est pas dans leur esprit à eux, ce n'est pas les placer dans une position inférieure nécessairement, parce que éduquer les enfants, ça veut dire préparer les futurs citoyens, et donc c'est une responsabilité très importante. On a parlé chez les historiennes américaines, entre autres, mais aussi française, de l'image de la mère républicaine. C'est cette femme qui est une mère, mais qui travaille pour la patrie, pour la République, en préparant des citoyens bien informés, des citoyens qui vont être honnêtes, qui vont plus tard se consacrer avec efficacité, avec honnêteté au bien public. Donc, le rôle des femmes n'est pas nécessairement un rôle qui est dévalorisé là-dedans. Là. Il ne faut pas le voir sous cet angle-là. Mais c'est clair qu'on a une vision très différente d'aujourd'hui des femmes, et on a une vision différenciée des rôles féminins et masculins, et c'est assez rigide, en fait. L'idéologie des sphères séparées, dans les discours à tout le moins, elle est assez rigide.
Puis les femmes vont tout de même s'impliquer dans la sphère publique, notamment avec les associations de philanthropie. À partir de la fin du 19e siècle. En fait, quels engagements peut-être elles vont avoir dans ces associations-là?
Alors, à la fin du 19e siècle, et en dépit du discours des sphères séparées qui affirme toujours hein, que les femmes devraient rester à la maison et s'occuper de leurs enfants, beaucoup de femmes des classes moyennes, de la bourgeoisie, vont se regrouper en associations et vont entreprendre des actions très publiques. Hein. Elles vont aller dans la société dans le but d'aider les pauvres. Il faut voir qu'à la fin du 19e siècle, on est dans une société qui est en voie de s'industrialiser. Hein. Montréal surtout, mais d'autres régions aussi du Québec sont en voie de s'industrialiser. C'est l'urbanisation aussi qui est de plus en plus importante. Donc, de plus en plus de gens vivent en ville, de plus en plus de gens dépendent du système capitaliste pour gagner leur vie. C'est conditions-là, ces phénomènes-là génèrent des conditions de pauvreté assez abjectes. Et la ville industrielle est une ville qui est souvent sale, qui provoque un ensemble de problèmes de santé publique. La mortalité infantile, par exemple, est très élevée. On peut parler aussi de familles désorganisées. On voit la délinquance juvénile. Il y a des enfants, des jeunes adolescents qui vivent de la criminalité, de la petite criminalité, des vols, des choses comme ça, parce qu'ils n'ont pas le choix. On voit la prostitution aussi proliférer. Donc, il y a l'industrialisation et l'urbanisation génèrent des problèmes sociaux importants auxquels les femmes de la bourgeoisie vont vouloir s'attaquer. Et donc, ces femmes-là, elles sont présentes dans l'espace public. Hein? Elles ne sont pas dans leur foyer, confinées à leur foyer. Mais on accepte ça assez facilement parce qu'en fait, dans l'esprit de l'époque, on considère que finalement, les femmes qui aident les autres, elles ne font que répéter ce qu'elles font dans leur propre famille. Dans leur famille, elles prennent soin des enfants. Ben, dans la société, elles prennent soin des personnes les plus vulnérables. Donc, les activités philanthropiques ou charitables des femmes, c'est comme une extension, en fin de compte, de leur responsabilité domestique. Elles étendent leur responsabilité domestique à l'ensemble de la société. Et d'ailleurs, souvent, à l'époque, on prétend que la société, c'est comme une grande famille. Donc, voilà, le rôle des femmes est acceptable parce que ça répète, au fond, ce qu'elles font chez elles.
Puis est-ce qu'on peut toutefois, à travers ces activités philanthropiques, caritatives des femmes, déceler déjà une prise de conscience politique un peu là, chez ces femmes-là?
Oui. Alors, ce qui va se produire, c'est que de toutes ces associations souvent atomisées que les femmes vont créer à partir peut-être des années 1870, là, je dirais, là, il y a de plus en plus d'associations qui se créent, mais il y a éventuellement une volonté de fédérer ces associations-là, de les regrouper pour être plus efficace, pour agir de manière plus efficace. Et tranquillement, je dirais, entre les années 1870 et 1900, on va passer d'une action féminine qui est purement charitable, hein, l'aide aux pauvres, on donne l'obole aux pauvres, on leur apporte de la nourriture, etc. On va passer de ces actions-là à une action qui est plus philanthropique. C'est-à-dire que là, on va se dire, bon, voilà, il y a de la pauvreté, oui, c'est bien d'aider les pauvres, mais ce serait mieux d'éradiquer la pauvreté. Donc, il faut comprendre d'où vient la pauvreté. Il faut étudier ces causes-là. Et à partir du moment où les groupes de femmes, les associations féminines se mettent à réfléchir dans ces termes-là, elles vont de plus en plus se diriger vers une action dite réformiste, c'est-à-dire qu'elles veulent réformer la société, elles veulent obtenir de nouvelles lois de la part des gouvernements, elles veulent que la société fonctionne différemment, ce qui implique de se préoccuper davantage de politique.
Puis justement, il y a la création du Conseil local des femmes de Montréal qui va un peu regrouper ces associations-là, pardon.
Oui, oui, tout à fait. Alors, dans les années 1890, à l'échelle canadienne, va être créée par la femme du gouverneur général du Canada de l'époque, Lord Aberdeen. Donc, Isabelle Aberdeen va créer le Conseil national des femmes du Canada. Et dans les villes canadiennes vont se créer des différents conseils locaux de femmes. Il y en a un qui est créé à Montréal en 1893. Et souvent, on fait commencer, si on veut, l'histoire du féminisme au Québec de cette date-là, parce que c'est là où est créé le Montreal Local Council of Women, ou Conseil local des femmes de Montréal. Alors, le Conseil local, c'est un groupe qui réunit un ensemble d'associations féminines. C'est une fédération, finalement, d'associations. Et c'est à partir de là que cette réflexion dont je parlais tout à l'heure, qui commence à prendre une tournure de plus en plus politique, va se faire. Mais au départ, les femmes du conseil local, elles veulent pas le droit de vote. Hein. Elles considèrent qu'elles sont des citoyennes, même si elles n'ont pas le droit de vote, mais elles estiment que le droit de vote ne leur est peut-être pas essentiel pour changer les choses. Il faut dire que ces femmes, parmi les hautes dirigeantes, là, on rencontre des femmes qui sont mariées à des politiciens, à des hommes d'affaires, à des banquiers, bon. Et elles ont des capacités d'action à travers leurs connaissances masculines, que ce soit leur mari, leur père, leur frère, etc. Donc, elles peuvent jouer, faire jouer leur influence sans nécessairement voter.
Mm-hmm. Et donc, on a une autre organisation assez importante qui se développe aussi à l'époque, là, au tournant du 20e siècle, là, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, qui va aussi porter finalement les idées féministes de l'époque.
Oui, complètement. Alors, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, c'est un peu le pendant du Conseil local des femmes de Montréal, le pendant francophone. Ce qui se produit, c'est qu'au départ, il n'y a pas d'association francophone. Donc, il y a des femmes francophones qui rejoignent le Conseil local des femmes de Montréal. Mais cette proximité entre francophones et anglophones, et surtout entre catholiques et protestantes, ne plaît pas au clergé catholique, qui s'alarme du fait qu'il y a des francophones qui militent au sein de cette association-là. On est chatouilleux sur cette question-là, d'autant plus que on associe assez rapidement le Conseil des femmes de Montréal à un mouvement féministe. On se méfie du féminisme. Donc, le clergé n'est pas et vraiment pas content là, de voir qu'il y a des militantes francophones au sein du Montreal Local Council. Et d'ailleurs, le clergé va interdire aux communautés religieuses féminines de rejoindre le Conseil local des femmes de Montréal parce que le Conseil local des femmes de Montréal se dit neutre au plan religieux. Alors, bon, il y a ça, il y a cette composante-là, la désapprobation du clergé qui est toujours là en arrière-plan, mais il y a d'autres choses aussi. Il y a le fait qu'au tournant du 20e siècle, les tensions entre Canadiens français et Canadiens anglais là, commencent à atteindre des sommets. Là. On peut parler de la guerre des Boers, la crise que ça a provoqué, on peut parler de Louis Riel, la pendaison de Riel, on peut parler donc, d'un ensemble d'événements qui se produisent, la question des écoles au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, bon. Et les francophones elles-mêmes finissent par se sentir un peu mal à l'aise au sein du conseil local de Montréal, des femmes de Montréal, parce que le conseil est essentiellement anglophone. Et puis, au début du 20e siècle, certaines féministes francophones vont découvrir qu'en France est en train de se développer un féminisme chrétien. C'est-à-dire un féminisme qui tente de concilier les revendications des femmes avec leur croyance religieuse, finalement. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si tout va se combiner, ces différentes raisons-là vont se combiner. Et en 1907, il y aura une fédération canadienne-française de femmes qui va se créer et qui va s'appeler la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste.
Et bon, tant le CLFM pardon, que la Société nationale Saint-Jean-Baptiste vont quand même lutter pour le suffrage des femmes, peut-être à des milieux plus locaux pour commencer?
Oui, alors, c'est pas parce qu'il y a deux associations, une francophone, une anglophone, hein, que les militantes ne se parlent plus, ça. Je pense qu'il faut effectivement le dire, le préciser. Les deux groupements vont souvent faire cause commune, vont souvent faire front commun dans différents dossiers. Et on le voit très bien, au début du 20e siècle, les militantes des deux groupes vont chercher d'abord à obtenir que les femmes puissent être commissaires d'école et aussi que les femmes puissent voter au niveau municipal. Alors, c'est vraiment au niveau local que l'on peut dire que la lutte pour le vote s'enclenche, la lutte pour le vote des femmes s'enclenche. On n'y pense peut-être pas assez souvent. Mais pour les femmes de l'époque, c'est très important le niveau local parce que les femmes, en tant que mères, en tant que ménagères au foyer, en tant que mères, elles ont des préoccupations relatives à leur environnement immédiat, si on veut. Donc, parce qu'elles éduquent les enfants, elles sont bien sûr intéressées à ce que les commissions scolaires, les écoles soient bien gérées, que l'enseignement que leurs enfants reçoivent soit un bon enseignement, que les professeurs soient bien qualifiés, que les écoles soient salubres, etc., etc. La même chose parce qu'elles œuvrent autour de la maison. Les femmes veulent que les rues soient propres, que les marchés publics soient bien surveillés pour pas qu'on vende à la clientèle des aliments avariés. Elles veulent que la ville soit bien éclairée le soir pour que les femmes puissent se promener en sécurité. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de préoccupations qui sont très locales. Et ça va faire en sorte que finalement, les premières luttes pour le suffrage vont plutôt se faire à cette échelle-là qu'au niveau fédéral ou provincial.
Et on s'imagine que justement, par après, ces premières luttes-là vont avoir fait une lancée peut-être pour le provincial.
Oui, tout à fait. C'est une fois qu'on aura accompli un certain nombre de choses à ces échelles-là que là, on va penser à aller vers le droit de vote au niveau fédéral et provincial.
Et c'est vers là que nous allons aller après la pause. On va écouter une chanson d'Anne Sylvestre, une artiste incontournable pour un sujet comme aujourd'hui. Écoutons la chanson « La faute à Ève » qui a été composée en 1979 dans son album « J'ai de bonnes nouvelles ». Bonne écoute.
D'abord, elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Il n'y avait rien d'autre, alors ensemble, elle a eu raison. Eh bien non, ça l'a pourtant arrangé l'homme. C'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il l'a bouffé la pomme, jusqu'au trognon et vite fait. Oui, mais c'est la faute à Ève, il a rien fait lui Adam. Il a pas dit, femme, je crève, rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs, c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam, il est mal tombé. Après ça, quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements, aucune pomme à l'inventaire qui l'a volé, c'est toi Adam. Et me savant sa fanfaronne, il dit mais non papa, c'est moi. Et d'ailleurs, elle était pas bonne, faudra laisser mûrir je crois. Alors c'est la faute à Ève, s'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il avait rien sur le dos. Ève a dit, attends, je cueille des fleurs, c'était trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça, quelle triste affaire, Dieu leur a dit, faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ève leur a dit, j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire éporter les enfants. Lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Ève. Si Adam rentrait crevé, elle avait une vie de rêve. Elle s'occupait des bébés, défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé, pétrissait bols et soupières, faisait rien de la journée.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec. Savais-tu que les employeurs sont prêts à t'offrir dès cet automne un stage ou un emploi pour plus tard dans l'année? Intéressant, non? Ne manque pas ta chance. 170 employeurs seront rassemblés au pavillon Desjardins pour le Carrefour de l'emploi. Le mercredi 2 octobre prochain, viens les rencontrer entre 10h et 16h et trouve dès maintenant ton stage ou ton emploi en fonction de tes disponibilités.
Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire. L'émission de ce soir porte sur le suffrage féminin au Québec et nous sommes avec Denise Baillargeon qui a écrit un ouvrage sur le sujet et qui nous parlait avant la pause de toutes les premiers mouvements, disons, pour le suffrage et, en fait, d'abord que les femmes avaient le droit de vote avant les années, le milieu du 19e siècle, et puis ensuite, elles l'ont perdu. Et les premières luttes, en fait, là, qui se situaient au niveau municipaux et scolaires. Et donc, en fait, tombons dans le grand sujet, peut-être la grande lutte des associations féministes du 20e siècle. Justement, si on regarde un peu, mise en contexte, première décennie du 20e siècle, quelles sont les associations qui luttent pour le droit de vote au Québec?
En fait, pendant la première décennie du 20e siècle, de 1900 à 1910, les associations présentes hésite encore à se prononcer pour le droit de vote. C'est vraiment en 1909 que là, le Conseil local des femmes de Montréal va prendre position officiellement pour le droit de vote. En fait, il faut peut-être expliquer pourquoi aussi elles en arrivent là. C'est que les femmes qui militent dans toutes ces associations philanthropiques ou réformistes et qui veulent faire changer les choses, qui veulent faire, faire diminuer la mortalité infantile ou s'occuper de la délinquance juvénile, des choses comme ça, elles se rendent compte que si elles n'ont pas le vote, elles vont difficilement arriver à faire bouger les pouvoirs publics. Donc, pour vraiment arriver à leur fin, elles doivent obtenir le vote. Alors, en 1909, le Comité local des femmes de Montréal va se prononcer pour le vote et le comité va créer une association, le Montreal Suffrage Association, qui commence à militer vers 1913 et qui va demeurer présente jusqu'à l'obtention du droit de vote de la majorité des femmes à l'échelle du Canada. Alors, le Montreal Suffrage Association, c'est une association montréalaise dont l'objectif est surtout d'obtenir le droit de vote pour les femmes à l'échelle nationale, donc à l'échelle canadienne. Pendant les années 10, c'est cette lutte-là, en fait, qui va mobiliser le plus les gens. Et puis, quand les Canadiennes obtiennent le droit pour le suffrage, la majorité des femmes canadiennes en 1918, eh bien là, ça va amener les francophones qui militaient au sein de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste à se dire, elles aussi, qu'il faudrait qu'elles prennent position pour le vote. Et donc, au début des années 20, on crée un comité provincial pour le suffrage féminin, comité qui est bilingue, qui est bicéphale, qui est dirigé par une anglophone et une francophone, comité donc qui va vouloir se consacrer à la lutte pour le suffrage à l'échelle du Québec. Alors, le contexte, évidemment, c'est que les Canadiennes ont obtenu le droit de vote. Beaucoup de femmes dans les autres provinces du Canada l'ont obtenu aussi. Et donc, les Québécois se disent que finalement, c'est à leur tour, à elles aussi, d'avoir le vote.
Mm-hmm. Et donc, on a un mouvement, finalement, pour le suffrage féminin qui réellement se structure là, au début du 20e. Par la suite, là, comment se distingue finalement la génération de Marie Lacoste, Gérin Lajoie, et celle de Thérèse Cassegrain, Idola Saint-Jean, là, par rapport à ses premiers soubresauts?
Oui. Alors, ce qui se produit, c'est que, le comité provincial pour le suffrage féminin a surtout une tête d'affiche qui est Marie Lacoste, Gérin Lajoie, qui elle, a une vision. Alors, Marie Lacoste, Gérin Lajoie, c'est une femme qui est intimement croyante, qui est très proche, en fait, du clergé qui donc va beaucoup se questionner sur sa position finalement sur le vote. C'est une femme qui croit que les femmes doivent voter parce qu'elles ont des attributs et des responsabilités particulières dans la société. Elle pense que les femmes doivent obtenir le droit de vote parce que les femmes prennent soin des enfants et que l'éducation des enfants est influencée par ce qui se passe dans l'ensemble de la société. Donc, elle, Marie Lacoste, Gérin Lajoie, elle ne croit pas nécessairement à l'idée des sphères séparées. Hein. Pour elle, la société et la famille, ça se rejoint, ça s'inter-influence. La porosité entre ces frontières-là, entre le public et le privé, là, entre la famille et la société, c'est une frontière qui est poreuse, c'est une frontière qui est vraiment pas étanche. Les deux s'inter-influencent. Donc, elle n'a pas cette vision-là des sphères séparées. Par contre, elle est convaincue que les femmes ont une nature particulière, que les femmes ont des restes. Donc, à cause de leur nature particulière, elle dit que les femmes ont des responsabilités particulières. Alors, cette philosophie ou idéologie qui est défendue par Marie Lacoste, Gérin Lajoie, on appelle ça du maternalisme. C'est-à-dire qu'elle revendique des droits pour les femmes, notamment le droit de vote, mais au nom de la capacité des femmes de materner. Donc, ce n'est pas une femme qui a une vision égalitariste. Elle ne dit pas que les femmes doivent voter parce que les hommes et les femmes sont des êtres humains et que les deux devraient avoir les mêmes droits. Ce n'est pas ça qu'elle dit. Elle dit que les femmes sont différentes des hommes et à cause de cette différence, elles devraient pouvoir voter. Et ça, c'est ce qui va différencier Marie Lacoste-Gérin Lajoie des autres militantes qui commencent à apparaître là, dès le début des années 20, mais qui vont devenir de plus en plus importantes à partir de la fin de cette décennie-là. Et je veux parler de Thérèse Cansgrain et d'Idola Saint-Jean, qui sont deux femmes qui ont une vision beaucoup plus égalitariste, finalement, des droits humains et qui veulent que les femmes votent parce qu'elles font partie de la société, tout simplement, et parce qu'elles sont des êtres humains au même titre que les hommes.
Et justement, Thérèse Cansgrain et Idola Saint-Jean, à la fin des années 20, vont créer leur propre organisation, si on peut dire. Comment elles reprennent le mouvement, en fait? Sous quelles actions, peut-être? Quels objectifs? Est-ce qu'ils sont communs aussi ou est-ce qu'ils se distinguent un peu?
Oui, alors, si on peut rappeler rapidement, brièvement les événements. Le comité provincial pour le suffrage féminin va mourir de sa belle mort dès 1922 parce que le clergé va vraiment faire une campagne très intense contre le droit de vote. Le gouvernement du Québec va refuser carrément d'accorder le droit de vote aux femmes. Et c'est ça, Marie-Gérin Lajoie va finalement être un peu forcée de démissionner. Et le comité provincial va pas mourir tout de suite, mais il n'est plus tellement actif. Et c'est à la fin des années 20 qu'il va renaître. Et il va renaître pour quelques années, mais très rapidement, on va assister à la création de deux nouvelles associations. La Ligue pour les droits de la femme de Thérèse Cansgrain d'un côté, et l'Alliance canadienne pour le vote des femmes, fondée par Idola Saint-Jean, de l'autre. Alors, on a là deux associations. Une association dirigée par Thérèse Cansgrain qu'on pourrait peut-être qualifier de plus bourgeoise. Idola Saint-Jean, elle cherche plus à se rapprocher des ouvrières, des femmes des classes populaires. Mais néanmoins, malgré ces différences-là, elles vont encore une fois, elles aussi, se coaliser, faire front commun sur la question du vote, et elles vont entreprendre des actions conjointes, en même temps que leur militantisme va être assez similaire. Dans les deux cas, par exemple, on va voir les deux associations obtenir du temps d'antenne pour diffuser des émissions de radio, donc du temps d'antenne qui est mis à leur disposition gratuitement là, par les propriétaires de postes de radio. Là, la radio dans les années 20, c'est vraiment là, un nouveau média, il faut se rappeler ça. Là. Donc, c'est un moyen très moderne de communication. Et par la radio, elles vont avoir des émissions d'à peu près 15 minutes ou une demi-heure. Là, et elles vont traiter de questions féminines, notamment de la question du vote, mais pas seulement de la question du vote. Donc, elles vont sensibiliser les femmes du Québec à la condition des femmes, au fait, par exemple, que les femmes mariées sont vraiment considérées comme des inférieures par la loi. Donc, elles vont mettre de l'avant, mettre sur le tapis comme ça toutes sortes de questions qui touchent plus particulièrement à la vie des femmes, et elles vont faire ressortir finalement les injustices que vivent les femmes à différents niveaux par ces émissions-là de radio. Elles vont aussi se promener dans les campagnes et aller rencontrer les femmes rurales dans des foires agricoles, par exemple, qui est une autre activité très en vogue à cette époque-là. Donc, elles vont dans les régions et elles distribuent des tracts, elles distribuent des brochures pour convaincre ces femmes-là de réclamer, elles aussi, le droit de vote.
Ces femmes-là, quelle était peut-être leur opinion? Est-ce qu'on sait sur le droit de vote?
Oui, ben alors voilà où le bas blesse exactement, c'est que au Québec, l'opposition de la population féminine au droit de vote est très importante. Beaucoup de femmes dans les campagnes, en fait, ne voient absolument pas pourquoi on leur demanderait d'aller voter. Je pense que le discours féministe, les féministes qui demandent le droit de vote, ils sont à la base des urbaines. Hein? Et elles se battent pour obtenir le vote parce qu'elles veulent contrer la mortalité infantile, la délinquance, des problèmes, ou alors lutter contre les taudis urbains, par exemple. Alors, c'est des problèmes qu'on voit en ville, mais pas nécessairement dans les régions rurales. Donc, leur discours touche peut-être pas beaucoup les femmes des campagnes. Elles ont de la difficulté à les convaincre. Et bien sûr, les opposants au suffrage vont beaucoup jouer là-dessus en disant disant, mais pourquoi on donnerait le vote aux femmes? La plupart des femmes n'en veulent pas. Donc, pourquoi on le leur donnerait? Ça posait effectivement un grand problème. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est que on va sonder les femmes dans certains sondages qui sont publiés dans les journaux, le fin 19e, début 20e. Et puis, on constate que l'idéologie des sphères séparées est très, très présente dans les esprits. Beaucoup de femmes disent qu'elles ne veulent pas du vote parce que leur place est à la maison, leur place n'est pas dans un bureau de vote. Beaucoup de femmes s'imaginent qu'en allant voter, elles vont déchoir, finalement, elles vont aller à l'encontre de leur qualité féminine. Donc, c'est comme si accorder le droit de vote aux femmes, pour certaines femmes, c'était comme s'attaquer à leur identité de femme, à leur identité féminine. Alors ça, c'est assez étonnant, je pense.
Puis est-ce qu'à votre avis, c'était peut-être plus cette idéologie des sphères séparées était plus accentuée au Québec? Est-ce que c'était plus important qu'ailleurs au Canada?
Je pense pas que c'était plus important qu'ailleurs au Canada. C'est une idéologie qui a été répandue dans tout l'Occident, finalement. Elle a peut-être réussi à survivre plus longtemps au Canada, au Québec, par rapport au Canada. Peut-être parce que le Québec a une population rurale ou semi-urbaine plus importante. Ça peut être un facteur qui a joué. Il faut dire que dans les campagnes aussi, le clergé, qui n'est pas unanime hein, sur la question du vote, ça, il faut bien dire, il y a des membres du clergé qui soutiennent tout à fait le droit de vote des femmes, mais en général, le clergé est quand même plutôt opposé au droit de vote des femmes, et c'est sûr que dans les petits milieux, le clergé peut beaucoup plus facilement faire sentir son influence finalement sur les consciences et sur les esprits. Donc, il y a ça aussi qui a dû jouer, mais quand même, quand les femmes s'expriment, même les femmes des régions rurales, quand elles s'expriment pour dire pourquoi elles refusent le vote, elles ne font jamais référence au clergé. C'est pas à ça auquel elles font référence. C'est au fait que la politique est sale et que donc se mêler de politique pour une femme, c'est nécessairement se salir et que la politique vient finalement porter atteinte à leur féminité. C'est vraiment ça l'argument qu'on entend le plus souvent.
Puis les associations vont aller vers les femmes, mais vont probablement aussi faire des démarches vers les gouvernements. Quel type de démarches, justement, vont être entreprises, peut-être vers les gouvernements provinciaux, mais peut-être aussi fédéraux?
Oui, alors, il y a, à partir de 1900, de la fin des années 20, il y a une espèce de tradition qui s'implante, la tradition du pèlerinage à Québec. J'aime bien le mot pèlerinage, qui est un mot très catholique aussi. Les journaux en parlent de cette façon-là. Alors, ce qui se produit, c'est que tous les ans, les deux associations dont on a parlé tout à l'heure, la Ligue des droits de la femme et l'Alliance canadienne pour le vote des femmes, elles choisissent un député qui va accepter de déposer devant l'Assemblée législative du Québec un projet de loi accordant le droit de vote aux femmes. Et la journée où cette motion du député est débattue en chambre, les féministes, les suffragistes, comme on les appelle, s'en vont à Québec en train, en procession pratiquement, et elles vont s'installer dans les galeries du Parlement pour assister au débat. Et à chaque fois, donc entre 1927 et jusqu'en 1940, alors que là, le vote est positif, mais les autres années, toutes les autres années, eh bien, les députés choisissent de ne pas discuter du projet de loi en deuxième lecture ou de renvoyer cette lecture à six mois plus tard. Donc, ça veut dire que la Chambre a le temps d'être prorogée et que le projet de loi n'est jamais discuté sur le fond. Et donc, en faisant ça, au fond, les députés votent contre le droit de vote. Mm-hmm. Mais la question du droit de vote n'a jamais vraiment été débattue en Chambre pendant ces années-là. Et donc, à chaque année, eh bien, après avoir assisté à ces débats qui ne sont pas toujours très élogieux, là, qui sont souvent assez rudes, avec des députés qui tiennent des propos misogynes, qui font des blagues à connotation sexuelle, des choses comme ça, là, c'est pas très glorieux, là, le discours des députés à l'époque, là. Alors, après avoir assisté à ça, eh bien, les féministes rentrent et puis bredouillent, finalement. À la fin des années 30, le gouvernement du Canada va mettre en place la commission Roel-Sirois, qui est une commission pour examiner les relations entre le Dominion et les provinces, comme on l'a baptisé. Et dans le cadre de cette commission royale d'enquête, des féministes vont présenter des mémoires au gouvernement fédéral pour dire finalement à quel point le fait que les femmes du Québec ne pouvaient pas voter, elles étaient désormais les dernières là, au Canada à ne pas pouvoir le faire. Alors, elles vont donc présenter des mémoires pour dénoncer cette situation-là et dire à quel point c'était vraiment quelque chose d'absolument odieux, finalement, et une chose qu'il fallait absolument changer. Alors, donc, on fait même appel au fédéral. Là. Les deux associations vont même faire appel au fédéral.
Est-ce que ça porte fruit?
Ça porte fruit indirectement parce que, bon, ce qu'on croit, c'est que finalement, le Parti libéral du Canada va finir par faire pression sur le Parti libéral du Québec. Donc ça se passe en 1938. Et à l'époque, le Parti libéral du Canada et du Québec, hein, c'est le même parti. Hein. Le Parti libéral du Québec, c'est comme une branche du Parti libéral du Canada. Alors, le Parti libéral du Canada va faire pression sur le Parti libéral du Québec pour leur dire, écoutez, là, franchement, il serait temps là, que le Québec accorde le droit de vote aux femmes. Et finalement, en 1938, lors d'un congrès d'orientation, le premier congrès d'orientation de son histoire, le Parti libéral du Québec va accepter d'adopter une résolution à l'effet que s'il est élu aux prochaines élections, il va accorder le droit de vote aux femmes. Il faut dire que dans l'Assemblée, il y avait Thérèse Casgrain parce que le Parti libéral du Québec avait accepté de recevoir une quarantaine de déléguées féminines, dont Thérèse Casgrain. Et Thérèse Casgrain, qui était vraiment une femme très politique, là, elle va faire jouer de son influence et elle va pousser pour que cette résolution-là soit adoptée. Et c'est ce qui va se produire. Donc, le parti adopte cette résolution en 38. Il est élu en 39 et en avril 40, il adopte une loi donnant le droit de vote aux femmes.
Puis, vous parlez aussi beaucoup des Premières Nations, en fait, bien, des populations autochtones du Canada dans votre ouvrage. Bien, c'est consacré, en fait, le dernier chapitre, entre autres, à leur place, en fait, dans cette histoire du suffrage qui est souvent oubliée. Donc, justement, en fait, comment peut-être les populations autochtones, notamment les femmes, sont... quelle place elles ont, en fait, dans l'histoire du suffrage féminin au Canada? Une question assez large, mais...
Oui. Alors, je dirais d'abord que les populations autochtones n'étaient pas très intéressées. Ça ne les interpellait pas vraiment, la question du vote, parce que pour pouvoir voter, si on était un autochtone, il fallait renoncer à son statut d'Indien. Seuls les non-Indiens pouvaient voter, finalement. Alors, voter pourquoi? Voter pour un gouvernement de blancs, un gouvernement qui, de toute façon, est celui qui a adopté un ensemble de lois pour justement placer les Autochtones en réserve, pour les dominer, pour assurer leur domination. Je pense que les peuples autochtones n'avaient pas vraiment envie de participer à ce jeu-là, finalement. Par les lois qui ont décidé au 19e siècle de mettre les Autochtones dans des réserves, de les confiner, de les réunir dans des réserves un peu partout à travers le Canada, cette loi-là prévoyait que les Autochtones pouvaient élire un conseil de bande. Mais les femmes autochtones n'avaient pas le droit de participer à ces élections-là avant 1951. Donc, c'est finalement 30 ans après que les autres Canadiens ont obtenu le droit de vote que les femmes autochtones ont pu voter au niveau local, si on veut. Et puis... ça a pris encore une autre trentaine d'années avant qu'au Québec, à tout le moins, là, on voit les premières femmes autochtones être élues chefs de leur bande, de leur conseil de bande. Donc, ça a été quand même encore là assez long, mais c'est la même chose du côté de la population blanche aussi. Hein. Les Québécoises obtiennent le droit de vote en 1940. La première femme députée élue, c'est en 1961, donc c'est une vingtaine d'années plus tard. Mais pour en revenir aux Autochtones, aux femmes autochtones surtout, je dirais que si la question du vote à l'échelle fédérale ou provinciale ne les a pas vraiment interpellées, d'ailleurs, elles ne vont pas nécessairement participer à ces luttes-là, en Par contre, la question du statut des femmes indiennes va les préoccuper grandement. Alors, à partir de la fin des années 60, grâce entre autres à Mary Two Axe Early, qui était une Mohawk de Kanawake, les femmes autochtones vont entreprendre une très longue lutte pour faire modifier la loi sur les Indiens, parce que cette loi disait que si une femme indienne mariait un blanc, elle perdait son statut d'indienne, ce qui n'était pas le cas pour un homme. Un Indien pouvait marier une blanche sans perdre son statut d'Indien. Donc, il y avait là une discrimination flagrante, une injustice flagrante. Et ça sera, je dirais, la grande lutte, en fait, des femmes autochtones là, pour au moins une bonne vingtaine d'années.
Puis peut-être une question pour clore cette entrevue, que le temps file. En fait, vous en avez parlé un peu, les femmes ont obtenu le droit de vote, mais bon, il n'y a pas de femme qui a été élue avant, vous avez dit, les années 70?
Oui, 60, en fait.
60?
Au Parlement du Québec, c'est en 1961. La Révolution, oui.
Donc, justement, est-ce que peut-être l'obtention du droit de vote, bon, on connaît un peu la réponse, est-ce qu'il va faire aux Québécois une meilleure représentation dans la sphère politique au Québec?
Certainement pas dans l'immédiat. Hein? on a juste atteint ce qu'on appelle la zone de parité aux dernières élections provinciales, donc il a fallu attendre jusqu'en 2018, finalement. Pour qu'il y ait au moins 40 % des députés qui soient des femmes. Ce qui est la zone de parité, là, c'est entre 40 et 60 %. Donc là, on a tout juste atteint le 40 % là, aux dernières élections. Donc, la question de la représentation est encore une question fondamentale, je pense. C'est encore une lutte à mener. Il faut voir aussi que la question de la parité, c'est pas seulement la parité homme-femme, mais ce serait aussi de considérer la représentation de l'ensemble des groupes dans la société, donc les personnes issues des minorités, par exemple. Bon. Alors, avant d'en arriver là, je pense qu'il va falloir encore mener plusieurs autres luttes. Donc, la lutte pour le vote, au fond, ce n'était que le début.
Oui.
Et non pas l'aboutissement.
Effectivement. Eh bien, c'est tout le temps qu'on avait pour l'émission de ce soir. Merci encore à notre invitée, Denise Baillargeon, d'avoir été des nôtres.
Je vous en prie.
Je vous rappelle aussi que si vous voulez vous procurer son livre, il a été publié aux éditions du Remue-Ménage, intitulé « Repenser la nation, l'histoire du suffrage féminin au Québec ». Également, si vous souhaitez réécouter l'émission en balado-diffusion, elle sera disponible dès demain sur le site Internet de CHIZ. Et sur ce, quittons-nous sur une chanson de Joyce G. Ruse qui est intitulée « Standing on the Shoulders », qui rappelle un peu bon tout le travail en fait des féministes qui a été fait dans le passé et qui justement n'est pas terminé. Et sur ce, c'était Myriam et Thomas à l'animation qui vous souhaite une très belle soirée et vous dit à la semaine prochaine pour une autre émission de 3600 secondes d'histoire.
I am standing on the shoulders of the ones who came before me. I am stronger for their courage. I am wiser for their words. I am lifted by their longing for a fair and brighter future. I am grateful for their vision, for their toiling on this earth. We are standing on the shoulders of the ones who came before us. They are saints and they are humans. They are angels, they are friends. We can see beyond the struggles and the troubles and the challenge, when we know that by our efforts things will be better in the end. Celebrating today. ones who came before me. I am honored by their passion for our liberty. I will stand a little taller. I will work a